Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Tournepage. Je vous propose aujourd'hui un récit d'Alexandre Pouchkine, un récit qui est paru en 1834, exactement 3 ans avant la mort de l'écrivain tué en duel. La Dame de Pique, au passage, je vous signale que Tchaïkovski en a fait un opéra absolument remarquable, mais qui diffère totalement de la nouvelle d'origine. Alors, la Dame de Pique. On jouait chez Narumov, officier aux gardes à cheval. La longue nuit d'hiver s'écoula sans qu'on s'en aperçût. On se mit à souper vers 5 heures du matin. Les gagnants mangeaient de grand appétit, les autres regardaient distraitement leurs couverts vides. Mais la conversation s'anima grâce au champagne. Et bientôt, tout le monde y prit part. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, Sourine ?» demanda le maître de maison. « J'ai perdu, comme d'habitude, vraiment. Je n'ai pas de veine, je ne double jamais ma mise, rien ne me démontre. Pourtant, je perds toujours. Et quoi ?»« Parce qu'une seule fois, tu n'as cherché à profiter de la série, parce qu'une fois, tu n'as été tenté d'essayer, ta constance me confond. » Et que diriez-vous de Hermann ? S'écria l'un des convives, en désignant un jeune officier du génie. De sa vie, ce garçon n'a fait un paroline ni même touché une carte. Mais il reste avec nous jusqu'à 5 heures du matin à nous regarder jouer. Le jeu m'intéresse beaucoup, dit Hermann. Mais dans l'espoir du superflu, je ne puis risquer le nécessaire. Hermann est allemand, il est toujours économe, voilà. Voilà tout, remarqua Tomsky. Mais s'il est quelqu'un que je ne comprenne pas, c'est ma grand-mère. La comtesse Anna Fyodorovna. Comprends pourquoi? Je ne puis concevoir les raisons qui la retiennent de jouer. Voyons, dit Narumov, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'une femme de 80 ans ne ponte pas ? N'avez-vous rien entendu dire ? Rien, vraiment ? Ah bon, écoutez. Mais sachez d'abord que ma grand-mère, il y a quelques 60 ans, vint à Paris où elle fit fureur. On la suivait en foule, on voulait voir la Vénus moscovite. Richelieu, qui lui fit la cour, a failli se brûler la cervelle, affirme-t-elle, désespérée par ses rigueurs. En ce temps-là, les dames jouaient au pharaon. Un soir, à la cour, ma grand-mère, jouant contre le duc d'Orléans, perdit sur parole une somme considérable. Rentrée chez elle, tout en décollant ses mouches et en dégrafant ses paniers, ma grand-mère avoua sa dette à mon grand-père et lui enjoignit de payer. Feu mon grand-père, autant qu'il m'en souvienne, lui servait d'intendant en quelque sorte. Il la craignait comme le feu. Cependant, l'aveu d'une perte aussi effroyable le jeta hors de ses gonds. Il fit des comptes, remontant à ma grand-mère qu'en 6 mois, ils avaient dépensé 500 000 qu'ils n'avaient point en France, leur village de Moscou et de Saratov. Bref, il refusa de payer. Grand-mère alors le gifla et, pour consommer la disgrâce, fit cette nuit-là chambre à part. Le lendemain, elle le convoqua. Elle comptait le bon effet de ce châtiment matrimonial. Pour la première fois de sa vie, elle consentit. Elle condescendit à des raisonnements, à des explications, rien. En vain s'efforça-t-elle de lui expliquer qu'il y a dette et qu'on n'en peut user avec un prince ainsi qu'avec un carrossier. Mon père s'entêtait et refusait de rien entendre. Non et non, c'était tout. Grand-mère ne savait plus que devenir. Elle connaissait intimement un homme fort remarquable. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont on raconte tant de merveilles. Vous savez qu'il se faisait passer pour le juif errant, pour l'inventeur de l'élixir de vie, de la pierre philosophale. Certains riaient de lui comme d'un charlatan, et Casanova, dans ses mémoires, dit que c'était un espion, quoi qu'il en soit. Et malgré le mystère dont il s'entourait, Saint-Germain gardait un aspect fort respectable et se montrait très aimable en société. Ma grand-mère, qui l'aime encore à la folie, ne supporte pas d'entendre parler de lui sans respect. Elle savait que le comte de Saint-Germain pouvait disposer de sommes énormes et décida de s'adresser à lui. Elle écrivit donc un billet le priant de passer au plus tôt chez elle. Le vieil original accourut, la trouva tout accablée de désespoir. Elle lui dépeignit sous les couleurs les plus sombres la conduite barbare de son mari et dit, en terminant, qu'elle portait sur son amitié et son obligeance tous ses espoirs. Saint-Germain se mit à réfléchir. « Je vous avancerai bien cette somme, dit-il, mais je sais que vous n'auriez de repos qu'après me l'avoir rendue, je n'aurai donc pas levé vos ennuis. Je propose un autre moyen, regagner l'argent. » « Mais mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l'ai dit, nous n'avons plus d'argent du tout. » « Il n'en est point besoin, répliqua Saint-Germain. Daignez seulement m'écouter. » Il lui révéla un secret que beaucoup paieraient cher. Les jeunes joueurs redoublèrent d'attention. Tomsky alluma sa pipe. Le soir même, ma grand-mère parut à Versailles au jeu de la reine. Le duc d'Orléans tenait la banque. Ma grand-mère s'accusa négligemment de ne s'acquitter pas aussitôt, débita, pour se justifier, je ne sais quelle petite histoire, et se mit incontinent à ponter. Elle choisit trois cartes, les joua l'une après l'autre, en doublant à chaque fois sa mise. Les trois cartes gagnèrent, et ma grand-mère put s'acquitter glorieusement. Par hasard, s'écria l'année convive. Quel compte ! Protestait Herman. Les cartes étaient peut-être truquées, reprit un troisième. Je ne le crois pas, répliqua gravement Tomsky. Comment ? Tu as une grand-mère qui devine trois cartes gagnantes successives et tu n'as pas encore su t'emparer de ce secret cabalistique ? C'est bien là le diable. Elle avait quatre fils, dont mon père, tous les quatre joueurs enragés, elle ne révéla son secret à aucun d'eux. Bien que cela leur eût été fort utile, ainsi qu'à moi. Mais voici ce que m'a raconté mon oncle, le comte Ivan Ilitch, ce dont son honneur se fait garant. Celui-même qui est mort dans la misère après avoir gaspillé des millions. Dans sa jeunesse, un jour qu'il jouait contre Zoritsky, il m'en souvient, perdit près de 300 000 roubles. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui se montrait toujours très sévère pour les étourderies des jeunes gens, eut je ne sais pourquoi pitié de lui. Et elle lui désigna trois cartes. Il aurait allé jouer l'une après l'autre, mais lui donnait sa parole de ne jouer ensuite plus jamais. Il se rendit chez son vainqueur, les joueurs. Il mit 50 000 roubles sur la première carte et gagna. Il doubla son enjeu et gagna encore. Gagna de même avec la troisième carte. En fin de compte, il put s'acquitter et se trouver encore en gain. Oh, il est bientôt 6 heures, il est temps d'aller se coucher. Les jeunes gens vidèrent leurs verres et l'on se sépara. Alors, le jeune Herman va essayer d'arracher à la comtesse le secret des trois cartes. Et pour cela, il va Usé de ruse, va faire la cour à la suivante, enfin à la demoiselle de compagnie de la comtesse, à Lisa. Et sous prétexte d'aller dans la chambre de Lisa, il va se retrouver dans la chambre de la comtesse. Mais la comtesse, en voyant pénétrer ce jeune homme dans sa chambre, sous le coup de l'émotion, elle meurt. Elle sera enterrée. Et le soir de l'enterrement, Hermann est dans sa chambre. Le fantôme de la comtesse lui apparaît. Elle lui dit qu'elle est là contre son gré, mais que on l'a obligée à venir. Et elle lui révèle son secret. Le secret des trois cartes. Oh, le secret, c'est le 3, le 7 et l'As. Mais Hermann ne devra plus jamais toucher une carte. Et la comtesse disparaît. Hermann, fier de son secret, va aller jouer le lendemain même. Il joue le 3, il gagne. Il joue le 7, il gagne. Il joue l'As. Et son partenaire lui fait remarquer qu'il n'a pas tourné l'As. Qu'à la place de l'As, il a tourné la dame de pique. Et Hermann, épouvanté, reconnaît dans cette dame de pique, cette carte, la vieille comtesse. La vieille, s'écria-t-il épouvanté. Hermann demeurait immobile. Lorsqu'il quitta la table, une conversation bruyante s'éleva. Un fameux ponte, disaient les joueurs. Le jeu reprit son cours. Et voici la conclusion. Hermann est devenu fou. Il est à l'hôpital, au numéro 17, ne répond à aucune question et marmonne très rapidement 3-7 As, 3-7 Dame, 3-7 As. Lisaveta, la pupille de la comtesse, a épousé un jeune homme très aimable. Il est fonctionnaire, possède une assez jolie fortune. C'est le fils de l'ancien intendant de la vieille comtesse. Elle a pris près d'elle une jeune parente pauvre comme demoiselle de compagnie. Tomski, le petit-fils de la comtesse, celui qui a révélé à Hermann l'existence du secret des trois cartes. Il est passé capitaine, il va épouser une princesse. Je vous signale que, à titre de curiosité, dans l'opéra de Tchaïkovski, Hermann se tue et Lisa, la jeune fille, se suicide. Comme quoi, parfois, en transposant une nouvelle, aussi réussie soit-elle, en la transposant sous la forme d'un opéra, on est obligé de tricher avec les origines. Je vous remercie de m'avoir écouté.